Et bonsoir à tous. Oui, nous sommes ensemble pour 2 heures d'information et de dialogue. Le téléphone sonne grand format, c'est le week-end aussi. Au programme ce soir, première partie, 18-19h, des réponses à nos questions d'argent en ces temps de coronavirus. Les particuliers sont autant concernés que les entreprises, bien sûr. On va parler des crédits, des impôts, des cotisations et des aides auxquelles nous avons droit. Et puis la deuxième heure du téléphone sonne, 19-20, nous ferons un premier bilan du confinement avec ces interrogations, évidemment. Faut-il durcir les mesures de distanciation sociale? Faut-il muscler encore la stratégie sanitaire? C'est le débat sur les tests, sur les masques. Vos témoignages et vos questions, nous les attendons. C'est par téléphone au 01 45 24 7000 et sur Twitter, ça se passe avec le hashtag Telson. Appelez le standard, auditeur, auditrice, il est ouvert. Nous engagerons le dialogue tout de suite après le journal. Bonsoir Alexandra Dubouchereau.
Bonsoir Alexandra.
Et les titres de ce samedi 21 mars.
À la une, c'est la question brûlante du moment. Où sont les masques? Y en aura-t-il assez pour faire face au coronavirus? À l'instant, Olivier Véran annonce une commande de 250 millions d'unités. Et vous l'entendrez, le ministre appelle aussi les Français qui n'en ont pas besoin à les rendre. Et puis les tests de dépistage, ils seront multipliés après le confinement. Vous verrez pourquoi.
Dans ce journal aussi, contrôle renforcé. Ce week-end, nous irons à Paris. Les quais de Seine sont désormais interdits.
Le gouvernement suspend le jour de carence, mesure saluée par la CFDT, vous l'entendrez. Et puis l'Allemagne propose ses lits de réanimation aux malades français.
France Inter.
C'est la polémique qui monte ces derniers jours, celle sur la pénurie de masques. On l'entend dans la bouche des soignants, des policiers, des caissiers et des Français en général qui ne comprennent pas pourquoi on leur demande de ne pas en porter s'ils ne sont pas malades, comparant avec la Chine et la Corée du Sud par exemple. Des questions légitimes, assure Olivier Véran, même si la polémique n'a pas sa place à l'heure d'un péril inédit, selon le ministre de la Santé, qui a tenu un point presse cet après-midi sur ce sujet. Il a promis un réapprovisionnement imminent pour les soignants et pour les malades.
Nous avons d'ores et déjà signé plusieurs commandes pour plus de 250 millions de masques qui sont livrés progressivement et le seront au cours des prochaines semaines. J'entends bien sûr l'urgence de donner des masques à ceux qui nous protègent, à ceux qui nous soignent, à ceux qui sont malades. L'inquiétude légitime de la population face à cette situation inédite entraîne également des comportements que je voudrais condamnés avec la plus grande fermeté. Nous avons effectivement constaté de nombreux vols, d'utilisation détournée, inadaptée des masques de protection. Une personne qui marche dans la rue pour aller faire ses courses, elle n'a pas besoin de porter un masque, parce que le virus se transmet essentiellement par les mains. C'est pourquoi j'invite toute personne qui dispose encore de masques à les remettre à la disposition des soignants, en les déposant à l'établissement de santé le plus proche, à un médecin, à un infirmier libéral ou dans une pharmacie d'officine.
Le ministre de la Santé, Olivier Véran, ce soir, ce matin, Édouard Philippe a annoncé que 40 prototypes de masques étaient en cours de test en France. Le gouvernement a sollicité des chercheurs et des industriels. La région Grand Est, de son côté, en a commandé 5 millions à la Chine. Alors que les dons se multiplient après le gel hydroalcoolique, LVMH promet d'offrir 10 millions de masques. Le groupe Bouygues, 1 million. Et l'Institut Azzaro offre des bouteilles d'eau aux hôpitaux des zones les plus touchées. Et puis sur les tests, Olivier Véran promet qu'on aura bientôt les moyens de multiplier les dépistages, car la période de sortie de confinement sera cruciale. C'est ce qu'explique Jean-François Delfraissy, président du conseil scientifique du gouvernement.
L'épidémie va se poursuivre. Il y aura de nouveau des cas, tout ne sera pas réglé. Mais on pense que la vitesse et le nombre de nouvelles contaminations sera moins important. Donc il faut qu'on envisage et qu'on commence à envisager maintenant une nouvelle stratégie qui pourrait ressembler à celle qui a été pratiquée en Corée et qui s'appuie sur des dépistages en très grand nombre des personnes qui se croient atteintes du Covid, les dépister, les isoler. Peut-être qu'on aura à cette époque un premier médicament qui permettrait de rentrer dans une stratégie de dépistage et traitement. On pourra repérer les contacts via des applications sur les numériques et sur nos portables qui permettent de tracer notre vie, mais vous voyez qu'on touche là à des choses fondamentales autour du droit privé des personnes. Tout ça est en train d'être réfléchi pour commencer à envisager qu'est-ce que nous ferons à la sortie du confinement.
Jean-François Delfraissy, membre du conseil scientifique du gouvernement avec Daniel Messager pour France Inter. Conseil qui dira d'ailleurs lundi si une prolongation du confinement est recommandée.
En France, nous en sommes au cinquième jour de confinement et comme promis, les contrôles sont renforcés.
Depuis mardi, les forces de l'ordre ont déjà dressé près de 40 000 amendes, selon Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur. Et en ce premier week-end du printemps, il faut dissuader les promeneurs, les flâneurs imprudents qui font de trop longues sorties, trop loin de chez eux. Certains lieux publics sont d'ailleurs interdit à Paris, par exemple, le Champ de Mars, les pelouses des Invalides ou encore, Simon Cardona, les berges de la Seine où vous vous êtes rendu tout à l'heure.
Mickaël rentre de sa lecture matinale au bord de la Seine plus tôt que prévu.
Je voulais aller en quai de Seine, il y avait trois pages à lire, j'ai lu la moitié de la première. Il y a une voiture de police qui s'est arrêtée qui me dit alors, parce qu'en fait je voulais y aller. Et en fait c'était à la fin qu'il avait marqué que les quais de Seine étaient complètement fermés. Donc voilà, pas de quai de Seine.
Rien à voir avec le week-end dernier.
Ah bah il n'y a personne, c'est clair, il n'y a personne, il y a la police, ça fait un peu état de siège.
C'est vrai que la différence est flagrante et c'est une bonne nouvelle, assure Jean-Yves.
J'habite dans la tour qui est là, donc je vois les quais et j'ai l'impression que ça se vide de chaque jour un petit peu plus. Je crois que les gens prennent la dimension de l'événement et se respectent de plus en plus.
Avec si peu de monde dans la rue, Corinne n'a pas peur d'être infectée par le Covid-19.
Je pense que là, on a compris que c'était très très grave. Moi, je sors, mais vous voyez, il n'y a personne autour de moi et je vite assez à manger pour ne pas déprimer et rentrer à la maison.
Il faut bien sortir quelques minutes pour s'aérer l'esprit, assure cette quinquagénaire.
Franchement, comment vous faites pour ne pas sortir de chez vous? Moi, j'ai essayé 2 jours, au bout de 2 jours, c'est angoissant.
Malheureusement pour Corinne, le confinement devrait durer et se durcir. Un couvre-feu a été mis en place à Nice, Menton ou encore Béziers.
À Nice, où plus personne non plus ne peut circuler sur la promenade des Anglais et au-delà des villes, de nombreux lieux de promenade en pleine nature sont fermés un peu partout dans l'Hexagone, des forêts, des plages, des sentiers de randonnée notamment. Le projet de loi instaurant l'état d'urgence sanitaire devrait être approuvé dans la nuit à l'Assemblée nationale. Malgré quelques tensions depuis hier, les députés de droite comme de gauche ont promis d'apporter leur soutien au texte. Et c'est Édouard Philippe qui a ouvert les débats ce matin dans l'hémicycle. Le Premier ministre qui a annoncé la suspension générale du jour de carence en cas d'arrêt maladie pendant toute la durée de l'état d'urgence sanitaire. Qu'en pensent les syndicats? Pour Jocelyne Cabanal, secrétaire nationale CFDT en charge de ces questions, c'est une mesure de justice.
Aujourd'hui, les personnes qui sont le plus exposées à la maladie, ben on sait bien, ce sont les soignants, ce sont les éboueurs, enfin ceux qui font vraiment la continuité des services indispensables dont on a besoin pour l'approvisionnement, pour les commerces. Et en général, ce sont les personnes les moins protégées. Et tous les fonctionnaires des hôpitaux, par exemple, quand ils tombent malades, ils ont cette journée de carence qui est retirée de leur salaire, alors même qu'aujourd'hui, pratiquement toute la population est confinée, 100 jours de carence. On doit quelque chose à ces personnes qui sont en train de faire un effort extraordinaire pour nous, en fait, pour nous protéger, pour nous soigner. Et la moindre des choses, solidairement, c'est vraiment de supprimer cette journée de carence lorsqu'ils tombent malades, d'autant qu'ils sont les plus exposés.
Jocelyne Cabanal de la CFDT avec Manuel Ruffez. L'armée vient en aide aux hôpitaux ce week-end. Un porte-hélicoptère basé à Toulon doit évacuer plusieurs malades de Corse vers le continent. Évacuation aussi, mais cette fois par les airs, de 6 patients de Mulhouse transférés au CHU de Bordeaux par un avion militaire médicalisé, l'A330 Phoenix. C'est la deuxième opération du genre en 4 jours. À Mulhouse, toujours, les militaires s'activent depuis ce matin sur le parking de l'hôpital saturé. Ils installent un hôpital de campagne avec 30 lits de réanimation. Et des malades français qui pourraient être accueillis en Allemagne. C'est en tout cas ce que propose le Bad Württemberg aujourd'hui. Bonjour Ludovic Piétenu.
Bonsoir à toutes et tous.
Un correspondant permanent de France Inter dans le pays. Ludovic, cette région frontalière offrirait des places de lit en réanimation.
Oui, il s'agit d'un geste de solidarité avec le voisin français, la région Grand Est durement touchée. Pourtant, ce land allemand du Bade-Württemberg n'est pas non plus épargné. Il compte 17 morts et plus de 3700 malades avec 7 à 800 nouveaux cas positifs annoncés chaque jour en cette fin de semaine. La propagation est telle que les mesures de confinement commencent à être imposées depuis hier dans certaines villes et sans doute d'ici lundi à l'échelle de toute cette région. Depuis aujourd'hui, par exemple, les rassemblements de plus de 3 personnes sont bannis, jusqu'à 25 000 euros d'amende en cas de non-respect. Mais sur le plan sanitaire, la région est mieux équipée en lits d'assistance respiratoire que son voisin français. Et le président du Bade-Württemberg, seule région allemande dirigée par un écologiste, considère que la solidarité doit jouer. Il y a 2300 lits, 20% sont disponibles. Les 80% restants sont occupés, mais finalement assez peu par les malades du coronavirus, seulement au nombre de 20 qui nécessite cet équipement très spéciale.
Merci Ludovic Piétenu. Et j'ajoute que l'Allemagne vient d'annoncer un plan de soutien économique de 822 milliards d'euros. Les chiffres à l'échelle de la planète sont vertigineux. Plus de 11 000 morts dans 164 pays et 900 millions d'habitants confinés. En Italie, cela fait un mois tout juste aujourd'hui qu'a été recensé le premier mort en Europe. Hier, le pays a connu sa plus forte hausse de décès, 627 personnes. Le confinement est renforcé avec la fermeture des espaces verts publics. Nouveau pic des décès aussi en Espagne. Aujourd'hui, 300 de plus, ce qui fait donc 1300 morts au total. Dans le pays, la région de Madrid reste la plus touchée. Et dans ce contexte, le maintien des JO de Tokyo cet été suscite de plus en plus de critiques. La puissante fédération américaine d'athlétisme vient de demander leur report. On en reparlera dans le journal de 19h. Dans une heure aussi, c'est l'autre actu du jour. L'universitaire français Roland Marshall, arrivé à Paris cet après-midi, libéré après 9 mois et demi de détention en Iran. Sa compagne, chercheuse elle aussi, est toujours emprisonnée. On entendra leur comité de soutien notamment.
C'était le journal d'Alexandra Dubouchereau. Prochain rendez-vous avec l'information, ce sera à 19h, le journal d'Yves Decamp. Dans un instant, le téléphone sonne, mais d'abord, parce que ça fait vraiment du bien de le regarder, des nouvelles du ciel avec Jean-Michel Golinski.
Retour progressif du soleil demain de la frontière allemande au nord de la Seine. Par contre, vers la Basse-Normandie et la Bretagne, l'ambiance sera parfois maussade. À noter un vent d'est toujours désagréable sur toute la moitié nord du pays, avec des températures minimales approchant parfois le seuil des faibles gelées des Hauts-de-France au quart nord-est. Dans la moitié sud du pays, un ciel souvent plus variable, plus nuageux qu'aujourd'hui, avec des averses en montagne, parfois mêlées de coups de tonnerre, avec de la neige au-dessus de 1800 mètres pour les Alpes et les Pyrénées, dans des températures nocturnes assez éloignées des gelées, et remontant l'après-midi entre 16 et 20 degrés, contre 10 en moyenne sur les régions de la moitié nord.